des auteurs donc, qui ont déjà travaillé sur le thème du pirate et de la piraterie. Donc je pense que les meilleurs pour pouvoir se présenter, c'est eux-mêmes.
Ah.
Donc je vais les laisser à ce difficile exercice, je vais y arriver. Donc on va commencer par Renaud Marois.
Ben voilà, c'est fait.
Voilà, je m'appelle Renaud Marois.
Un petit peu détailler le CV.
Ouais, d'accord, ok. Donc en fait, moi, mon métier, c'est plutôt de la recherche en imagerie médicale, mais donc dans le temps, il y a la recherche. Et il se trouve que j'ai pas mal de recherches sur les pirates et j'ai fait un jeu de rôle, donc Pavillon Noir, où j'ai essayé de caser tout ce que je savais en tassant bien fort dans les bouquins. Voilà. Et donc mon voisin de gauche a fait une illustration pour le voilà. Genre en batterie.
Donc j'ai Christophe Soile, donc illustrateur. Donc j'ai bossé pour, enfin je bosse depuis un petit moment pour le jeu de rôle, donc pas mal de trucs, COP, CINS, MD, je sais plus, plein de trucs. Et du coup j'ai bossé un petit peu sur Pavillon Noir. Voilà, des pirates, j'y connais absolument rien.
Ah, il y a un autre supplément, un autre jeu sur lequel tu as travaillé justement, qui est aussi lié aux pirates, tu m'avais dit, pour le Grimoire.
Oula, oui. Oui, il y a très longtemps, je bossais avec Le Grimoire qui a sorti un gros bouquin sur Sartosa, sur les pirates dans Warhammer. Donc voilà. Mais, sinon, après, au niveau des pirates, je crois que c'est quasiment le Pavillon Noir, je pense. Voilà.
Et donc, le Matou, donc moi je suis dessinateur BD, et avec Frédéric Brémaud, on a fait chez Delcourt deux albums Histoire des plus fameux pirates. Donc l'un qui raconte la vie de Capitaine Kidd et l'autre qui raconte la vie de Barbe Noire. Tout ça basé sur le bouquin de Daniel Defoe, ou attribué à Daniel Defoe, Histoire des plus fameux pirates. Et donc certains de ces chapitres, la vie de ces deux personnages. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est historique, plus ou moins, et fictionnel aussi, plus ou moins. Voilà.
Donc on va commencer par une question relativement simple.
J'ai quel âge ?
Non, en fait, c'est justement pour revenir à, pour ainsi dire, à vos premières armes face au thème des pirates, chacun de côté, votre première rencontre avec le thème de la piraterie.
Tu veux dire professionnellement ou
même en tant qu'en tant que dilettante, en fait, le premier livre, film ou la première œuvre finalement sur le thème du pirate qui vous a marqué et qui peut-être vous a influencé sur ce sujet-là.
Alors là, franchement. Alors après, si, plus par rapport à l'illustration. Un groupe d'illustrateurs, enfin de peintres illustrateurs américains, début du siècle dernier, qui a un petit peu figé en fait l'image graphique du pirate, c'est-à-dire, toi tu les connais, mais je pense
Howard
Pyle, Wyatt, Schulover, etc., donc tous ceux qui faisaient partie de la Brandywine School, je crois que c'est ça, du coup qui ont fait des couvertures extraordinaires, illustrations aussi de L'île au trésor de Stevenson. Et qui ont. Enfin voilà, c'est quand vous voyez un pirate avec une jambe de bois, etc., même le Long John Silver qui est sorti récemment par Loffray, ça emprunte directement à. Enfin, directement. C'est très influencé, quoi. Voilà, il a énormément marqué. Enfin, ce groupe d'artistes a énormément marqué. Du coup, c'est un peu comme. Enfin voilà, enfin, moi ça vient de. Je pense que c'est ça. Après, j'ai lu L'île au trésor, mais. Il n'y avait pas de couverture hein, du tout. Enfin, voilà, mais c'est, graphiquement, c'était ça. Après, oui, il y avait L'île au trésor. Et... Sinon, après, dans ma tendre enfance, non, je sais plus.
Renaud, du coup ?
Moi, j'avais lu L'île au trésor et ça ne m'avait pas marqué tant que ça. Mon premier contact, c'était donc un livre pour enfants quand j'étais très jeune. Donc, je vais avoir 6 ans, comme ça. Donc, ça s'appelait Pirates et Fibustiers. Et ça mélangeait un petit peu tout, hein, les pirates, les fibustiers, comme si c'était vécu à la même époque. Voilà.
C'est pareil, c'est pareil.
Tais-toi. Voilà.
Ok. Et toi
Moi, pour ce qui est des. Le thème des pirates, gamin en tout cas, ça m'a jamais attiré plus que ça, même si c'est un imaginaire qui parle un peu à tout le monde, on joue tous aux pirates sur la plage. Mais c'est vraiment en faisant ces albums, parce que c'était un peu un boulot de commande, où je me suis plongé plus à fond dans l'univers, notamment à, côté de la, à cause de la nécessité de documentation pour le côté historique. Et c'est là où je me suis amusé et je suis beaucoup plus rentré dans l'univers pirate. Sinon, ça faisait partie d'un imaginaire que pouvait l'être le fantastique, plein d'autres univers. Voilà.
Justement, le thème des pirates, finalement, maintenant, un peu comme les vampires, ça a l'air d'être très prisé en littérature. Il y a quand même pas mal de choses ces dernières années sur le sujet. Je pense aux Tortuga de Valerio Evangelisti. Il y a des jeux vidéo, il y a quand même pas mal de choses qui sont brassées au niveau du culturel. À votre avis, en fait, d'où vient en fait cet intérêt pour le thème du pirate et de la piraterie en fait? Qu'est-ce qui explique justement cet engouement pour cet univers?
Bah, les pirates, ils font ce qu'ils veulent, ils vont voir les putes, ils boivent de l'alcool, etc. C'est cool.
En gros, ouais, je ne rappelle pas la même chose. C'est-à-dire qu'à une époque où finalement... on n'a pas tellement d'idéal qui enfreint les lois, qui enfreint les règles de la société, qui fait partir dans le rêve. Le pirate, ça incarne pas mal tout ça. C'est-à-dire que justement, on s'évade dans un imaginaire.
Je sens que l'eau est en train de bouillir. Mais
Non, je parle de l'imaginaire. Je ne parle pas de la réalité. Et que ça permet pour plein de gens de se projeter dans ce type de héros.
Moi, en fait, je suis un peu mal à l'aise par rapport à ce genre de question parce que ce qui attire les gens vers la piraterie, c'est pas la piraterie, c'est donc une sorte d'image d'épinal qui n'a pas grand-chose à voir avec la réalité et qui est très en dessous de la réalité. En fait, pour moi, l'île au trésor, quelque part, a beaucoup figé l'image du pirate sur le trésor, les cartes au trésor ou les autres choses de genre. Alors qu'en fait, donc, ça n'a quasiment pas de réalité historique. Enfin, donc certes, il y a un moment où il fallait bien enterrer ce qu'on avait, parce que sinon on risquait de se le faire prendre. Mais donc, en général, ils ne revenaient pas le chercher d'ailleurs. Enfin, les vrais trésors, c'était plutôt des trésors qui se trouvent au fond des mers. Donc tous les navires de la flotte au trésor espagnole qui ont été pris par des cyclones et qui ont étalé des milliards, ça correspond à des centaines de millions en fait, sur le fond, en vaisselle d'or. Des pierres précieuses et autres. Ce qui intéresse les gens dans la piraterie, en fait, les gens par rapport à la piraterie, donc ça n'est pas la piraterie elle-même. L'île au trésor, et puis après, donc, Hollywood en a fait. Et c'est quelque part un peu dommage parce que on perd la ferveur, les valeurs pirates sont liberté, égalité, solidarité, volontariat, c'est des valeurs en fait qui nous parlent. Donc les pirates étaient des révolutionnaires avant l'heure, révolutionnaires avant la Révolution française. C'est dommage de passer à côté de cet aspect plus politique de leur vie. Et c'est quand même drôle parce que ce sont des gens qui n'ont aucune éducation, qui basent leur vie sur la loi du plus fort. Qui ne savent pas vraiment parler, qui parlent avec leurs tripes. Donc, si tu n'es pas d'accord avec moi, c'est que tu es une lopette. Voilà, c'est un petit peu ça. Ces gens-là, on n'a aucun background pour créer une société idéale. Donc, ils créent une société idéale, qui est aussi à la fois idéale et bancale que possible. Je trouve que ce qui intéresse, donc, pour conclure, ce qui intéresse en fait les gens par rapport à la piraterie, c'est pas la piraterie elle-même, c'est juste des images.
Ça veut dire en fait qu'il y a quand même une véritable différence en fait entre la morale des pirates telle qu'elle nous arrive à travers l'imaginaire et la morale des pirates telle qu'elle pouvait être en réalité à l'époque, en fait, toute la philosophie qui peut en découler, quoi.
Oui, et la principale raison c'est que ce n'est pas les pirates qui ont écrit l'histoire, ce sont les grandes puissances, et pour les grandes puissances, les pirates étaient une nuisance. Ce n'était pas tellement pour une raison de nuisance pour le commerce, c'est une nuisance parce qu'ils étaient séditieux. Ils prônaient la liberté, l'égalité, l'élection des chefs, toutes ces choses-là, donc il faut les écraser aussitôt que possible. Il faut dire que ce sont juste des parasites. Pour ce qui était donc des habitants du Nouveau Monde, la vie par rapport aux pirates était très partagée. Il y avait un mélange de crainte, donc ils s'enfuyaient dès qu'ils entendaient le nom d'un pirate, ils s'enfuyaient à l'intérieur des terres. Et d'un autre côté, donc, plus ils étaient pauvres et plus ils voyaient dans le pirate le héros qui arrive à faire ce que eux n'ont pas le courage de faire. Parce que la vie d'un pirate, c'est 2 ans. Donc, c'est l'espérance de vie du pirate.
J'avais entendu 3 ans.
Oui, 3 ans. 2-3, voilà, voilà.
L'espérance de vie d'un pirate en activité.
Ouais. Oui, à partir du moment où un pirate devient capitaine, donc il a une espérance de vie de 2 ans. Bartholomew Roberts, c'est 3 ans, donc 400 navires pendant 3 ans, c'est le plus grand pirate. Après, il y a des pirates qui ont une plus grande durée de vie, comme Olivier Labouche.
Ou celui qui est devenu gouverneur de la Jamaïque.
Mais c'était pas un pirate. C'est très différent parce que donc, le pirate, il est ennemi de l'humanité, tandis que le flibustier, il est juste ennemi des Espagnols. Le flibustier, c'est...
Il est balèze.
Non, mais c'est clair que Morgan...
Oui, voilà.
Morgan, en fait, donc, il a fait des arnaques de piraterie. C'est-à-dire qu'il a attaqué les Espagnols à un moment où les Espagnols étaient en paix avec l'Angleterre. Mais, donc, un certain François Ier a dit donc, il n'y a pas de paix au-delà des lignes de l'amitié. Et donc, c'est-à-dire la pleine ligne, le parallèle qui passe par... méridien, pardon, qui passe par les Açores. Et donc, au-delà, donc, il n'y a pas vraiment de paix. Et donc c'était pas très grave s'il a fait. Et donc comme c'était, il allait permettre de un petit peu de museler, de contrôler un petit peu donc les flibustiers qui étaient des gens qui ont permis le développement de toutes les colonies anglaises, hollandaises et françaises en déversant tout leur espagnol dans des endroits qui étaient très pauvres. Donc après ils étaient personne à grata, il fallait donc les éliminer parce qu'ils étaient un petit peu trop peu disciplinés et imbattables. Un petit peu des surhommes d'un point de vue des combattants surhommes, donc
ils étaient loin de tout ça aussi en plus. Donc pour aller les
ils vivaient à Port-Royal de la Jamaïque, ils avaient pignon sur rue, donc ils étaient là.
Ce que je veux dire, c'est que pour venir de l'Europe pour venir régler les problèmes qu'il pourrait y avoir, ça demande beaucoup de moyens quand même pour l'époque.
Non, les moyens se trouvent. À cette époque-là, si on veut, donc les Espagnols ne contrôlant plus du tout les Caraïbes. Donc, si on veut faire venir donc, des navires de guerre, on peut. Enfin, venir des navires de guerre, mais c'est pas intéressant. C'est pourquoi donc ne pas tout simplement transformer ces gens un petit peu qui manquent un petit peu d'ordre, comme tous les marins d'ailleurs à terre. Donc, ces gens qui manquent un petit peu d'ordre, donc en simple planteurs. Et le meilleur moyen, c'est de faire venir des femmes. Et c'est la solution d'ailleurs qui a été prise.
Ou des titres. Comme gouverneur de la Jamaïque.
Ou des titres, mais on ne peut pas en donner à tout le monde.
Bien sûr.
Sachant que, voilà, du point de vue fictif, Morgan, c'était parmi les pires crevures qui existaient. Hein.
Oui, parce qu'il a trahi tout le monde après
la prison à Cabo. La Panama, pardon.
Panama, oui.
On a plus ou moins abordé le sujet, mais justement, avec le thème du pirate, se pose la question du respect de la vérité historique, souvent, en fait. Comment, dans vos œuvres sur le sujet, je pense à toi avec l'histoire des plus fameux pirates, ou toi, en fait, quand tu illustres, en fait, finalement, des scènes sur le sujet, vous jouez justement, vous gérez la problématique de la vérité historique, en fait, quoi.
C'est chaud parce que moi, de toute façon, je suis basé sur des images d'Épinal aussi, enfin, et puis tout ce qu'a fait Wyatt, tout ça. Donc, du coup, je pense que je ne suis pas historique du tout. Enfin, je me rappelle, Renaud, tu m'avais dit tiens, le mec qui tient son épée comme ça, c'est pas possible, etc. Ce genre d'épée, ça n'existait pas, un truc. Du coup, moi, il y a le pirate historique, puis il y a le pirate, pour moi, quand tu racontes une histoire, etc. Celui qui m'a fait rêver, donc le pirate de Stevenson, pirate qui existe, enfin qui n'existe pas. Voilà, le pirate avec la jambe de bois, etc.
Ah si, ça y en avait.
La jambe de bois, oui, mais enfin je veux dire.
C'était pas le spécifique au pirate.
Avec le perroquet.
Voilà.
C'était spécifique au marin. Voilà. Dans la marine de guerre, il y a plus de jambes de bois que sur les navires pirates, parce qu'il y avait plus de combats.
Mais du coup, non, enfin, moi je suis à côté de la plaque, quoi, je pense, complet.
Ben, oui, non, enfin, disons que c'est par rapport à une réalité historique, c'est sûr, mais le jeu, c'est aussi de se situer quand on est dans une œuvre de fiction qui va parler à l'imaginaire, entre justement des choses qui appartiennent à l'imaginaire commun ou l'imaginaire de l'époque, qui est peut-être pas forcément très.
Mais la Pavillon Noir, c'était pas.
La réalité historique.
C'est historique, quoi. C'est historique, Pavillon Noir, c'est assez.
Ouais.
C'est assez pointu.
C'est historique, mais on rentre aussi dans une sorte de fiction quand même, forcément, puisqu'on va dans un jeu de rôle, on est dans le travail imaginaire. Et je suppose après qu'on a beau apporter une Bible avec un maximum de références possibles, la partie après, derrière sur la table, il y aura toujours l'imagination qui va compléter, rentrer en compte. Donc je pense que ça doit quand même parler un petit peu aux deux aspects, même si là, l'aspect historique est forcément beaucoup plus mis en avant que l'aspect imaginaire. Mais il doit quand même être présent. Parce que de toute façon, on n'a pas non plus des sources d'une exactitude incroyable sur ce qui se passait à l'époque. Enfin, je vois, moi, par exemple, sur tous les comptes rendus de procès, de choses comme ça, où il était avéré que tel pirate avait peut-être fait ça, ça, ça et ça, et en fait, il s'en vantait toute sa vie, puis une fois qu'il était pris, il n'avait plus rien fait. C'était toujours difficile de trouver la frontière entre qu'est-ce qui était vrai, qu'est-ce qui s'est passé, comment ça se passait exactement, parce que c'est beaucoup de l'oral. Il n'y a pas beaucoup de... Enfin, moi, c'est ce que j'ai rencontré, en tout cas, comme difficulté en me documentant au niveau historique. Et je pense que, du coup, forcément, il y a de l'imaginaire qui rentre dans l'univers de la pirate.
Je suis un petit peu d'accord. Hein, donc, je ne dirais pas... Sans pour autant parler d'imaginaire. De toute façon, la vérité, on ne la connaît pas. Et c'est vrai pour des événements qui ont lieu il y a 5 ans, et c'est encore plus vrai pour des événements qui ont lieu il y a 300 ans. Donc on ne la connaît pas. Tant qu'on n'a pas été là, tout ce qu'on a, c'est des échos de « il s'est passé ci, il s'est passé ça ». Quand vous lisez le Figaro, quand vous lisez le Canard enchaîné, vous avez deux versions du monde qui ne sont pas les mêmes, des événements qui ne sont pas les mêmes, et les faits relatés sont parfois différents, chacun y va de son parti pris, et donc à cette époque-là, c'était encore plus vrai. Donc la presse, c'était, ce qui est resté comme écrit. Moi je dirais que donc il y a ce qu'il y a des pirates. Bon, les pirates n'ont pas écrit. Bon, bah, tant pis pour eux. Voilà. Donc leur avis, on s'en fout. De toute façon, ils pensaient surtout à boire et à passer du bon temps. Ensuite, il y a la société des bien-pensants de l'époque qui, elle, pensaient que les pirates, ils voulaient faire croire que les pirates étaient des parasites, point. Et c'est d'ailleurs, quand on regarde, ça me fait un petit peu, ça me surprend. J'ai lu un Historia sur les pirates, où en gros, tout ce qui sortait, c'était ça. Voilà. Les pirates sont des parasites, point. Donc c'était en gros, on prend au pied de la lettre tout ce qu'on peut dire les autorités de l'époque, et on prend au pied de la lettre, c'est un petit peu curieux. Donc la troisième version, c'est donc la version libertaire du Capitaine Johnson, qui est probablement, même si donc il y a des gens qui pensent que non en ce moment, mais qui est de faux. C'est probablement de faux, ou en tout cas c'est un libertaire. Les libertaires, il y a beaucoup dans les pirates, chez les pirates, dissenters, qui étaient en fait des jacobites qui avaient des valeurs de liberté ont dû partir l'échec de des guerres jacobites, et donc ils ont dû partir dans le Nouveau Monde. Ils n'ont pas pu s'insérer sur place, ils étaient contre l'esclavage notamment, et donc ils sont finis par se retrouver sur des navires pirates. Et donc il y a eux, et aussi les crèves la faim d'Angleterre, qui se retrouvent sur des navires de commerce puis pirates. Et donc il y a en gros ces trois axes, et sans parler d'imaginaire, donc déjà si on a que trois informations, on va pouvoir regarder que selon ces trois axes-là, la piraterie, tout ce qui passait ailleurs, on n'en sait rien. On peut soit faire intervenir l'imaginaire, soit se contenter en fait de ce dont on dispose. Et si on se contente de ça, déjà on a déjà une marge de manœuvre importante. Et pour un jeu de rôle, moi, plutôt que de penser à imaginaire, je pensais plutôt à ludique. Qu'est-ce qui est ludique dans ces trois versions-là ? Les pirates sont des parasites ? Je sais pas, si on est un chasseur de pirates et qu'on doit les détruire sans s'intéresser à qui ils sont, en les considérant un petit peu comme le monstre de Donjons et Dragons, pourquoi pas. Mais sinon, ce n'est pas très intéressant. Le pirate qui aime boire, oui, bon, ok, c'est sympa, 2 minutes, mais bon, il va faire autre chose. Et donc, le pirate libertaire, c'est quand même un petit peu plus intéressant. Ça donne un petit peu plus de corps à la vie. Et des parties où les joueurs ont une idée bien précise de ce qu'ils veulent faire, et leur équipage donc vote que non, en fait, c'est autre chose qu'ils vont faire. C'est aussi intéressant, ça montre que l'équipage a une entité forte, et qui transcende en fait la volonté des joueurs. Et donc, plutôt que de parler d'imaginaire, je parlais plutôt de comment est-ce qu'on peut utiliser ce qu'on sait pour rendre, pour rendre en fait les parties d'un jeu de rôle sur la piraterie ludique. Et donc, la vérité en histoire, il n'y en a pas. Donc, voilà. Enfin, plutôt, on ne la connaît pas.
Ou elle change avec les époques.
Avec la piraterie, en fait, enfin, moi, en tant que personne extérieure, qui ai lu trois petites choses sur le sujet, mais du coup, qui sont forcément influencées par l'aspect fiction plus que par l'aspect réalité historique, il y a quand même une idée d'une mythologie, quand même, avec de grands personnages, des légendes, des récits épiques, il y a quand même des choses. C'est pas juste nébuleux, il y a quand même des noms dont on a entendu parler.
Non, mais les noms, après, donc. Les noms, qu'est-ce qu'on y associe? Je prends l'exemple de Barbe Noire, c'est l'exemple typique. Donc, on dit, alors, Barbe Noire, c'était le plus terrible de tous les pirates. Alors, Barbe Noire n'a jamais pratiqué la torture, ni les supplices, ni mis à mort donc, des capitaines.
En fait, sur mon bouquin dans les pirates, un constat d'historien actuellement, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont été appelés pirates, qui ont été choqués qu'on les appelait pirates à l'époque, qui se considéraient avant tout comme des marins, en fait, et qui parfois étaient ces 90% de commerce légal ou de choses indépendantes, mais pas forcément, et qui ont été rattachés par les autorités au terme piraterie, en fait. C'est plus les autorités qui inventaient les pirates que les pirates qui s'autoproclament pirates la plupart du temps.
Oui, au fil de l'histoire. Mais donc, à l'époque de Barbe Noire, Cid Bonnet, parce que Cid Bonnet, c'est un peu un étang comme ça, parce qu'il échangeait en fait, des cargaisons avec les navires qu'il prenait. Mais ça, selon la loi à cette époque-là, c'était bien clair, hein, donc, et Cid Bonnet le savait très bien, c'était parfaitement clair que qui prenait un navire en haute mer était un pirate, qu'il laisse partir son équipage indemne sans toucher la cargaison, c'était un pirate. La loi était claire. En fait, elle a mis du temps à être claire, parce qu'au début, on appelait les corsaires les archipirates, voilà. Donc, enfin, les grands corsaires, les archipirates. Donc, il y avait pirate, ça voulait dire qui tente son aventure sur l'aventure sur mer. Ulysse était un pirate, par exemple. Donc, après, la loi était très claire. Mais donc, pour revenir à Barbe Noire, donc l'image qu'on nous présente de Barbe Noire, c'est en gros un affreux personnage, une espèce de grande brute qui terrifiait les gens et donc qui devait les torturer donc et commettre des exactions atroces. En fait, donc non, il en a fait à peu près infiniment moins qu'un capitaine de la marine de commerce ou de la marine de guerre, puisque sur la marine de commerce ou de guerre, donc toute supposée indiscipline, hein, on tapait dans au cas où, hein, s'il y aurait une indiscipline, hein, était punie par des supplices qui s'apparentaient à la mort, donc que ce soit le fouet. Puisque au bout de 24 coups de fouet, donc on avait une chance de mourir. Le supplice de la cale qui consiste à faire tomber quelqu'un de 30 mètres de haut, donc attaché à une barre en bois, donc, et puis à le refaire tomber plusieurs fois. Tomber 30 mètres de haut, ça fait très très mal. Hein. Le supplice de la carène, où on fait passer la personne sous le navire. Si on est sympa, on le fait ça en largeur. Voilà. C'est quand même assez large un navire, hein. Ça peut être large de là-bas jusqu'ici. Et donc on le tire en faisant racler la peau sous la coque du navire. Cette coque est couverte de coquillages qui arrachent la peau, qui font hurler de douleur et qui noient la personne. Et quand on n'est pas sympa, on le fait ça dans le sens de la longueur. Il y en a d'autres encore et encore. Et c'est la loi. Une des premières lois sur la justement navale. C'était donc qui lève la main sur son maître aura la main clouée par une dague au mât et il devra la retirer sans utiliser sa deuxième main. En gros, il doit se déchirer la main pour l'enlever. C'est une des premières lois en 1100 et quelques sur la. Le marin est tout simplement une sorte de grand souffre-douleur des puissants et des capitaines en particulier. J'aime beaucoup cette phrase qu'il y a dans le Lord John Silver de John Larson. Il existe deux types de capitaines, ceux qui haïssent leur équipage et ceux qui haïssent l'humanité entière. Donc face à ça, un Barbe Noire, donc, qui n'a jamais torturé qui que ce soit, il faisait peur aux gens. Pourquoi? C'était la meilleure façon pour qu'ils se rendent sans combattre. Et donc ils se rendaient.
Après, il y avait aussi une partie du jeu, entre guillemets, c'était aussi. Enfin, surtout dans le cas de Barbe Noire, une volonté de paraître effrayant pour gagner sans tirer un coup de canon.
C'est ça. Mais c'est meilleur pour tout le monde.
Pertes inutiles.
Oui.
Il y a aussi le fait que beaucoup d'écrits qui nous sont parvenus ont été écrits par des Européens qui voyaient ça, qui depuis l'Europe voyaient les monstres sanguinaires des Caraïbes sans jamais y avoir mis les pieds ou pas loin.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Et même quand on interprète un petit peu donc, les actes, les derniers actes de Barbe Noire, qui était donc il a quand même donc mis sous son joug toute la Caroline du Nord, hein, donc bon, tout le monde lui payait tribut, donc y compris donc enfin, lui il versait des petits pots de vin au gouverneur pour qu'on lui foute la paix, mais donc il terrorisait à son monde toute la Caroline du Nord. Et la raison pour laquelle il l'a fait, on la connaît pas exactement, mais il y a une possibilité qui est que Samuel Bellamy était un ami de Barbe Noire, et donc et donc, quand le navire de Bellamy a fait naufrage donc, du côté de Cap Cod, et donc Bellamy est mort, mais donc il y a eu, je crois, 7 rescapés, et donc Boston les a brûlés malgré donc les injonctions de Barbe Noire qui a dit si vous les brûlez, ça se passera. Enfin, si vous les pendez, ça se passera très mal. Et donc après, donc, Barbe Noire a brûlé tous les navires venant ou allant à Boston, et la mise sous son joug de la Caroline du Nord est possiblement en fait une réaction de rage face à ce qui a été fait à Bellamy. Voilà, donc une sorte de revanche, quoi. Donc il n'y a pas, enfin, je sais plus de quoi on était parti de voilà, la mythologie et les grands. Donc, en fait, Barbe Noire, voilà, il avait des mèches qui s'allumaient donc sur les côtés de son chapeau, ça lui donnait le visage d'une furie sortie tout droit de l'enfer. Oui, bon, d'accord. Lui, il a pris 50, je sais pas, entre 40 et 80 navires pendant sa carrière. Bartholomew Roberts, c'était très calme, lui, et qui ne voulait pas qu'on s'en prenne un prisonnier. Lui, il a pris 400. Bartholomew Roberts, c'est un petit peu une autre catégorie, une catégorie au-dessus par rapport à Barbe Noire.
Mais.
Et toi, justement, pour t'être confronté déjà à un matériau semi-fictif avec l'histoire des plus fameux pirates de Defoe, est-ce que tu as essayé aussi de confronter ça à d'autres sources pour voir justement, essayer de voir s'il y avait des tendances. Il y avait plus ou moins des en fonction des récits, s'il y avait des tendances qui se dégageaient qui allaient à l'encontre du bouquin de Defoe ou pas
Alors ça a été plutôt le travail du scénariste, hein. En l'occurrence moi j'étais j'étais l'illustrateur, et parler des Européens qui écrivaient tout ça depuis on s'est posé la question parce que justement Defoe a priori il a jamais quitté Londres, c'est ce que j'ai vu sur lui. Et que comment du coup il a pu écrire les histoires de Capitaine Johnson et voilà.
Je peux comprendre qu'il avait disparu pendant.
Ah ben j'ai lu ça. Parce que j'ai lu lui, non. Okay. Après et du coup nous on s'est amusé à imaginer en l'occurrence comment il avait pu récupérer ses sources. Donc à Londres il y a des marins qui traînent, il peut les interroger. Il peut récupérer des lettres qu'on lui écrit de là-bas, des choses comme ça, et puis imaginer. Mais après, là-dessus, on était plutôt. C'était quoi ?
Justement, c'était par rapport à. Donné que toi, tu t'es confronté à un matériel existant, en fait, donc.
Oui, après, dans le travail de recherche historique, on ne pouvait pas non plus passer un temps infini à recouper des sources, à chercher à droite à gauche. Et en sachant que de toute façon, on partait aussi du bouquin de Capitaine Johnson, donc c'était notre structure de départ. Et là-dessus, sur les deux pirates, ça a été traité de façon différente. C'est-à-dire que pour Barbe Noire, on est beaucoup plus parti sur le mythe, donc le personnage terrible tel qu'il nous est décrit, par l'imaginaire, pas par le mythe justement. Et pour Capitaine Kidd, plus sur quelque chose d'un peu plus historique, un peu plus finalement ce qui devait être l'aventure commune de pas mal de capitaines à l'époque, qui parfois se retrouvaient à verser dans des actes de piraterie parce qu'ils étaient coincés, en l'occurrence Capitaine Kidd, ce serait ça. Coincés parce que l'équipage est aux abois, que rien ne va plus. Qu'ils ont plus de quoi faire avancer le navire et qu'ils se retrouvent à attaquer un autre bateau pour s'en sortir. Encore une fois, là-dessus, on était aussi sur la structure du récit Capitaine Johnson. Mais pour Capitaine Kidd, on est allé fouiller un peu plus loin que toi. Savoir ce qui est d'autres sources au niveau de son histoire à lui. Beaucoup plus que... Ben voilà, pour Capitaine Kidd, on est parti plus sur de l'historique. Et pour Barbe Noire, plus sur l'imaginaire, le mythe. Et sinon, ben, pour parler de faux Capitaine Johnson, en fait, et par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur la vague des libertaires à l'époque, les révolutions, c'est pas encore pour tout de suite, mais ça couvre un peu parce que la société est quand même très rigide. Une fois qu'on est né quelque part, on y reste. Enfin voilà, donc ça commence un peu à exister. Je sais que Defoe a été condamné au moins une fois au pilori. Bon, ça s'est bien passé pour lui parce que tous ses copains sont passés et lui ont jeté des roses au lieu qu'il se retrouve inondé d'ordures par la populace. Enfin voilà. Mais apparemment, ça lui a suffi et c'est peut-être pour ça qu'il aurait écrit ces histoires de pirates sous ce pseudonyme de Capitaine Johnson. D'une part parce que ça véhicule des idées libertaires, donc histoire de voilà. Et aussi parce que dedans il y a justement pour ça, il y a l'histoire de cette Misson. Elle est dedans, il me semble. Alors on dit que Misson c'est plutôt une fiction. A priori il n'a pas de réalité historique, enfin pas prouvé quoi. Et c'est un capitaine. L'histoire de Misson en fait ça décrit une utopie où effectivement, comme ce que tu racontais au début, là il crée un royaume totalement indépendant avec. C'est l'équipage d'un ou deux navires et une utopie, un pays où tout le monde a des droits égaux, etc. Enfin, c'est ça l'aventure de Misson. Et du coup, de façon déguisée, c'est une critique de la société de l'époque et comment elle pourrait être autrement, une vision d'avenir peut-être, mais en tout cas, c'était très polémique. Voilà.
Okay. Pour parler illustration, du coup, vu que vous êtes deux sur le coup, pour ainsi dire. Tu parlais tout à l'heure de Pyle et des influences qui ont pu t'aider justement à mettre en scène ce sujet-là. Vous avez quand même chacun après un parti pris graphique personnel sur le sujet en fait. Comment vous vous appropriez
Pas sur Pavillon Noir pour moi, parce que du coup je me suis amusé à prendre les techniques d'illustrateurs un petit peu des années... Hein ? J'ai copié. Non, les techniques des illustrateurs des années 20, etc. Pour coller un peu avec l'atmosphère, tout ça, puis faire aussi un petit clin d'œil. Voilà quoi. Donc du coup, c'était pas vraiment pareil, mais ça faisait un petit côté un peu gravure, enfin très légèrement, quoi, mais par rapport à certains auteurs comme pour être précis, Joseph Clement Cole ou Franklin Booth. Au début du siècle dernier, et puis voilà quoi. Donc, du coup, je me suis pas. Enfin, c'était pas mon style à moi. C'était vraiment. Je me suis dit, tiens, je vais faire des illustrations en noir et blanc de pirates dans un style qui était pratiqué avant, dans les années 20.
Moi, je rebondis sur ce que vous disiez. Vous parliez du noir et blanc, et je me suis demandé en ayant le bouquin entre les mains, est-ce que c'était un parti pris du noir et blanc, parce que souvent l'imagerie de la voile et des marins est très souvent volontairement noir et blanc, ou est-ce que c'était une contrainte d'impression et...
Oui, à mon avis, je pense que c'était une contrainte d'impression, je pense, au début, c'est clair, et puis même, de toute façon, il y a énormément de travaux, enfin quand je parle de Wyatt, etc., qui étaient destinés, enfin c'était imprimé après en noir et blanc, enfin au niveau de gris, mais c'était, alors certains étaient en couleur, mais après étaient...
Il y en avait quand au niveau de gris, avec quelques couleurs, avec quelques couleurs flashy.
Je sais pas pourquoi d'ailleurs.
Il y en a une où il y a des pirates qui vont aller boire avec un...
Ouais, avec un coffre et tout ça, ouais. Mais je sais pas pourquoi ils mettaient... Alors c'était destiné en noir et blanc, mais eux, ils le bossaient au niveau de gris, puis ils mettaient du jaune. Alors il doit y avoir un truc qui... Je sais pas. Un truc qui m'échappe, mais...
C'est pas forcément une contrainte technique.
Ouais, je sais pas.
De
Non, c'était vraiment
c'est un jaune volontaire.
Ouais, ouais.
Très lumineux et qui répond très bien avec les noirs et blancs.
Ouais.
Et toi justement Renaud, même si tu n'es pas illustrateur sur le jeu, enfin pas à ma connaissance.
Le prochain supplément si.
D'accord. Tu as interagi en fait avec les illustrateurs qui vont travailler justement sur.
Non, en fait non. Ça c'était moi c'était des contraintes purement budgétaires en fait, c'était pas possible ça coûte trop cher. Enfin moi donc vous imaginez pas. Le bonhomme, hein. Donc on m'a donné une illustration par exemple pour la pavillon noir de l'édition. Donc l'illustration, elle était magnifique, quoi, bien ce qu'il y a, elle était superbe. Mais j'ai eu 50 remarques dessus. Une ceinture en cuir, une bandoulière en cuir avec un pistolet dedans, non, je suis désolé, le pistolet tombe. Donc, le pistolet dans le froc, non, je suis désolé, mais donc c'est pas bon pour les coucougnettes si on prend un coup de sable dessus. Et si jamais ça tire, c'est encore moins bon, non, c'est pas bon.
Ah mais tout ça, c'est justement, voilà.
En fait, c'est vrai que.
Wyatt, etc., on fait ça du coup.
Oui, mais il faudra
ça contribuer
que.
Au...
Ce qu'il aurait fallu, c'est que donc, j'ai une sorte de réunion avec les illustrateurs où donc, je donne déjà des éléments donc, de base. Puis il y a des choses que j'ai appris au fur et à mesure. Par exemple, donc. Les pirates portaient leur pistolet au bout d'une longue bande de soie, enfin c'est ce qu'on suppose hein, fortement, après la découverte justement de la carcasse du navire de Bellamy. Donc une longue bande de soie et avec des petites cordelettes au bout, donc ça fait genre deux pistolets comme ça, et les pistolets pendaient le long sur le torse, et donc quand ils voulaient tirer, ils tiraient comme ça, et l'autre pistolet remontait, ensuite ils attrapaient le pistolet, ils tiraient comme ça. Et donc des gens comme Barbe Noire avaient donc. 8 pistolets comme ça donc sur le torse. L'époque où on dirait que c'est pas qu'un pistolet, ça faisait un petit peu sens. Il fallait avoir une certaine carrure.
Oui,
normalement. Et puis si jamais on n'avait plus d'armes, il faut toujours prendre son écharpe comme ça et puis donner un grand coup de pistolet dans la première des autres. Ça marche très bien.
Surtout si on a 8 quoi.
Si on en a 4.
La taille et le poids du pistolet, ça fait que tu peux casser un crâne avec. Hein.
Oui, et puis en plus la crosse c'est en
métal.
En métal.
Donc, c'est pistolet.
Oui, pas un.
Non, c'est pas un autre nom.
Non, c'est un pistolet.
D'accord, ok.
Et toi,
c'est un piège, mais.
Et toi, du coup, Benoît, justement, avec la fabuleuse histoire des fameux pirates, j'ai toujours du mal mettre les mots dans mon sens sur cette île. Tu as une partie pré-graphique personnelle, j'imagine.
Alors, j'ai pas réellement un partie pré-graphique personnelle, c'est mon dessin. Par contre. Pour le situer dans l'époque où ça se passe, puisqu'à chaque fois avec le Île de Faux, l'histoire de chaque pirate a un début, une fin, enfin c'est daté. Je me suis renseigné du mieux que j'ai pu au niveau vestimentaire, à quoi ressemblaient les bateaux à l'époque, éventuellement le bateau de Capitaine Kidd. Alors maintenant, j'ai pas pu non plus passer des années et des années de recherche pour être ultra précis. Du coup, Internet m'a pas mal servi. Le problème d'Internet, c'est pouvoir vérifier ses sources. C'est jamais évident. En faisant des recoupements, comme on trouve certaines choses, on peut se dire que voilà, telle ou telle chose doit être à peu près cohérente. Et puis, pour ce que je n'avais pas pour le reste, j'ai dû travailler d'imagination, justement. Comme on est dans un récit où il y a de l'historique, mais aussi pas mal de fiction, ça me paraissait cohérent. Par exemple, pour Capitaine Kidd, j'ai vu... la reproduction, il y a eu un portrait qui a été fait de lui la nuit où il a été pendu, où il a une espèce de... on a l'impression d'une perruque qui lui a été vite faite de travers sur la tête et qui a été peint donc la veille de son exécution ou la nuit quand il était en prison avant son jugement, je ne sais plus exactement. Et où ça concorde après avec ce que j'ai lu du compte-rendu du procès où c'était dit qu'il avait... on aurait dit qu'il avait la cinquantaine ou la soixantaine tellement ses traits étaient tannés et burinés par la mer. Voilà. Donc, et aussi, il était complètement sous pendant son procès. C'est pour ça qu'il a une espèce d'expression là, comme ça. Sauf qu'il a été collé dans un coin, la perruque sur la tête, et puis voilà. Donc, il y a à la fois quand j'ai pu en avoir des petites sources historiques, et puis sinon du travail d'imagination. Mais c'est mon style.
À propos du sous, si je peux juste te dire un truc.
Ouais.
Donc en fait, donc une raison pour laquelle il était sous, la plupart des marins étaient souvent sous, au moins pour une raison qui était que donc le rhum était c'était le plaisir ultime à bord, donc priver l'équipage de sa tomate de rhum, c'était risqué mutinerie. Et donc aussi l'alcool, le vin en particulier, avait donc une vertu antiseptique, donc qui était vu les horreurs qu'ils mangeaient, surtout sur les navires de guerre ou marchands où ils avaient de la morue. La morue très vite, au bout de deux semaines, ça commence déjà à avoir des vers. Alors vous imaginez pas au bout de deux mois. Donc le vin est complètement, ils buvaient beaucoup, hein, donc pendant les repas, et donc et lorsque on leur disait donc bataille bordel l'artimon, ça veut dire viens boire ta timbale de rhum.
Sachant que pour les ceux qui veulent regarder, justement, il y a des planches de la fabuleuse histoire des plus fameux pirates ici en fait.
Et si jamais tu es intéressé par des vieux, enfin moi je veux bien interagir avec toi si jamais tu veux des détails de. Enfin comment dire, pour ah oui. Si tu te poses des questions, ça me fera un plaisir.
Bon, justement, pour parler un peu de Pavillon Noir, c'était aussi ça qui était intéressant en fait de faire cette table ronde, c'est qu'il y a une réédition du jeu qui est en cours de route, et je voulais savoir justement, c'est un jeu qui a quand même quelques années derrière lui, qu'est-ce qui a amené justement l'envie de cette réédition? Qu'est-ce qui...
Bah donc moi déjà, en fait, cette réédition aurait dû avoir lieu, en fait, le bouquin était prêt, et ça fait plus de deux ans qu'il est prêt, hein, donc les deux livres de base en tout cas. Donc il y a eu donc un gros travail de clarification, donc relecture du texte. En gros, il n'y a plus une phrase qui ressemble à l'édition précédente. Donc, je vous exagère, mais c'est pas ça. Donc c'était normal de le rééditer. On a commencé à le rééditer. Donc je l'avoue qu'il y avait cette idée du crowdfunding depuis un moment dans la tête. Donc le temps que ça se mette en place, ben, donc, il s'est écoulé du temps. C'est tout. Mais... ça devait sortir. Enfin, il n'y avait pas de raison, ça ne ressortait pas.
J'avais justement la question par rapport à justement, tu parlais d'aspect ludique tout à l'heure, au niveau des règles de simulation. Est-ce qu'il y a des... j'ai jamais joué au jeu, je connais deux noms et je me suis un peu renseigné quand même. Est-ce qu'il y a des choses au niveau de la simulation en fait qui sont particulières par rapport à l'univers de la piraterie qu'on voit peu dans d'autres jeux de rôle ou des choses que tu as?
Oui. Alors en fait, il y a deux. Je pense deux éléments de règles. Les règles de base, en fait, c'est un petit peu comme... C'est sorti en même temps que COPS, hein, donc c'était rigolo parce que donc, c'est COPS mais inversé. Enfin, donc, c'est, en fait, il y a une. Les compétences caractéristiques sont inversées, ce qui est assez marrant. Et comme COPS, ça corrige. Enfin, excusez-moi pour les amateurs de vampires, mais ça corrige le défaut de vampire qui est la brouette de dés. Moi, jeter 8 ou 9 dés, ça m'ennuie. Voilà, c'était moyen de réduire. Donc, oui, donc le système de base, donc, il est relativement simple. Et ce qui complexifie un petit peu, c'est qu'on a justement des choses, des éléments particuliers à l'époque, qui vont être donc des traits de réputation qui vont refléter justement comment les pirates sont perçus. En gros, on va attribuer des caractéristiques extraordinaires à des pirates, tout simplement parce qu'on en a la trouille, ou qu'on les admire. Donc, un tel va être un héros populaire, donc quand il va se balader en ville, si jamais il a un ennui, donc quelqu'un viendra à son aide, ou des choses dans ce genre-là. Ça, c'était bon, c'est un petit élément simple. L'élément un petit peu plus complexe, il y a l'escrime. Bon, c'est une époque où l'escrime est quand même très développée, hein, donc, et c'est en France en particulier. Donc, quand on tombe sur un noble français, donc, c'est un escrimeur. Donc, il n'y a pas de côté. Et si on joue à l'époque des fumustiers, quand on tombe face à un espagnol, c'est un escrimeur, avec l'escrime espagnole. Et donc les règles d'escrime sont un petit peu particulières et elles viennent en fait en superposition des règles normales. Elles ne les modifient pas. Donc on fait toujours un jet normal, d'attaque normale, mais on va regarder en fait les valeurs des dés qui vont avoir une symbolique. Il y a la symbolique de le 1 comme la pointe de l'épée, ça va être l'ouverture laissée par l'adversaire. Le 0 comme le bouclier, ça va être donc ça va être la défense. C'est un très mauvais résultat, 0, donc t'as pas bien noir. Donc ça évite les catastrophes. Le 5, qui n'est ni 1 ni 0, c'est un mouvement du corps pour manager un avantage. Et donc, quand on a ces éléments qui sortent, on a des manœuvres d'escrime qui sont, elles, parfaitement licites, d'un point de vue historique aussi, donc qui vont apporter donc, divers avantages. Voilà, et donc c'est assez fluide. Ça a été prévu initialement avec des cartes d'escrime qui n'étaient non, bah, on n'a pas pu les sortir pour la première édition, mais par contre, elles vont sortir pour la deuxième, puisqu'elles ont été promis lors de la souscription. Le deuxième élément, c'est le groupe Parce que dans, moi, je n'ai été satisfait des combats de groupe dans aucun jeu de rôle. Et donc, il me fallait un système de combat de groupe qui reflète en fait trois choses. La réalité historique de l'époque, sans pour autant qu'on ait à connaître, les détails. Il faut que ce soit dans le système, en fait. Le système incite à se conduire comme se conduisaient les gens à l'époque, donc notamment donc, en termes de combat naval. Deuxièmement, il fallait donner une belle part à la stratégie. Il ne faut pas que le hasard guide ce qui se passe. Ce que je voulais, c'est que vraiment, donc, les choix des joueurs aient une importance capitale, les choix des joueurs pour leur équipage. Et troisièmement, la place des joueurs, qu'elles sont importantes, elle est importante de deux manières. C'est que, qu'on soit mousse ou qu'on soit capitaine, les joueurs décident ensemble de la stratégie du navire. Ensuite, le capitaine dit « j'ai décidé que ». En fait, donc, c'est la décision que tout le monde a prise ensemble. Le mousse y compris. Donc il n'y a pas de problème à jouer quelqu'un qui n'a pas un rôle de poste de commandement dans Pavillon Noir. Et en plus, par contre, pour ceux qui ont des postes de commandement, les compétences des joueurs déterminent majoritairement en fait, la compétence du groupe. La raison est la suivante, c'est que, je vais prendre un exemple, j'ai 50 excellents tireurs, mais ils tirent tous sur la même cible. Je fais un mort. Maintenant, j'ai des tireurs médiocres, mais chacun a une cible différente. Et c'est pas comme sur une ligne de bataille où tout le monde, on aligne les gens les uns contre les autres, donc ils tirent à peu près, de manière à peu près parallèle, dans des cibles différentes. Non, là, on est sur un navire avec des gens qui tirent un peu dans tous les sens. S'ils sont bien coordonnés, ben donc on fait 20 morts. Voilà. Donc la compétence du commandement est primordiale, elle prime sur la compétence des matelots. La compétence des matelots, c'est juste un petit bonus qui est donné par rapport à la compétence du commandement. D'accord. Et d'ailleurs, on le voit donc historiquement donc, pour l'histoire de Bartholomew Roberts. Donc, quand Bartholomew Roberts était là, les pirates étaient invincibles. Dès qu'il est mort, il s'est pris donc, un paquet de mitraille dans la gorge. Dès qu'il est mort, son équipage s'est rendu instantanément. C'était fini.
Est-ce que vous avez des questions aussi, des interrogations?
J'ai raté le début. Dans les pirates, vous avez tué les corsaires?
Non. Enfin,
non, hein. C'est pareil, les corsaires.
C'est pas la même chose.
En fait, je peux faire une distinction. Si on a distingué tous ces aventuriers, donc il y a les premiers aventuriers qui étaient dans les fêtes des corsaires et qui étaient initialement des capitaines de commerce qui cherchaient à s'installer dans les comptoirs portugais. Ils ont été torturés à mort par les Portugais. Ça n'a pas beaucoup plu donc aux armateurs français qui ont perdu leur capitaine, leur équipage. Et donc ils ont demandé au roi de France l'autorisation en fait de récupérer leur dû. Et donc ils ont commencé à attaquer non pas les Portugais. Tous les Espagnols, qui eux étaient très sympathiques à l'époque, hein, parce qu'ils laissaient partir, quand ils prenaient un navire, ils le laissaient partir, ils disaient retournez chez vous et dites que vous avez été pris. C'est assez chevaleresque. Ces gens-là, donc, allaient dans le Nouveau Monde, ils pillaient, ils pillaient surtout les navires espagnols, et ils rentraient. Et au bout d'un moment, ça a été un petit peu long, tout ça. Eux, on les appelait juste des aventuriers, hein, donc c'était un petit peu long. Il y avait, en Angleterre, c'était les Sea Dogs. Ils sont installés sur place avec l'accord plus ou moins tacite du roi de leur nationalité, de leur nation, et donc ils se sont fait appeler flibustiers. Leur installation était possible parce que les Espagnols ne contrôlaient absolument pas plus les Caraïbes, mais c'était donc les Hollandais qui au début du XVIIe contrôlaient les Caraïbes. Et donc ces flibustiers, donc, eux, sont attaqués d'abord au navire, et puis quand les Espagnols ont compris que quand ils voyaient 5 gugus dans un petit canot, il fallait se méfier, même si on était 100 à bord, parce que donc sinon ça allait pas rigoler. Et donc c'est devenu difficile d'attaquer des navires qui voyageaient en convoi et qui étaient lourdement armés. Donc ils ont attaqué des villes, ce qui était possible pendant un moment, et puis ça, plus le fait que les mines de Lima se sont épuisées, ça a ruiné un petit peu les Espagnols. Au bout d'un moment, ces gens-là ont été mal vus parce qu'ils étaient un petit peu agités. Et donc, soit qu'on va voulu se ranger, on leur a dit, écoutez, maintenant, soit vous vous rangez, soit vous êtes hors la loi. Et donc, ils sont faits pirates. Et donc, les pirates, eux, sont vraiment ennemis de toutes les nations. Les corsaires, ça existe depuis assez longtemps, mais avant, c'était un peu informel. Colbert a bien... bien cadrer les choses. Et le corsaire, c'était une entreprise commerciale visant à récupérer ce qu'on avait perdu sur les navires d'une nation ennemie, donc en période de guerre. Et donc il y avait quatre contributeurs. Il y avait donc l'armateur qui fournissait le navire, l'assureur qui assurait en fait le navire, l'État qui donnait la commission et l'équipage qui le capitaine et l'équipage. Et donc on séparait en quatre, quasiment quatre parts égales en fait, donc les parts de prise. Mais c'était tout à fait commercial. Et il y avait d'ailleurs sous Louis XIV beaucoup de passages de la marine des corsaires à la marine de guerre, notamment Jean Bart qui est devenu chef d'escadre.
Et
Surcouf bien après.
Merci beaucoup.
Question. Des passages à piraterie et aux corsaires.
C'était tout le temps, sans arrêt. Parmi les gens qui ont pris Barbe Noire, on en a retrouvé sur le navire de Bartholomew Roberts. Donc les soldats qui ont attaqué Barbe Noire et qui ont tué Barbe Noire, après on en a retrouvé sur le navire de Bartholomew Roberts, donc en tant que pirate. Ça a changé dans tous les sens. En fait, on dit beaucoup de mal des pirates, mais c'était tout ça. Enfin, comment dire, le meilleur moyen de supprimer les pirates, c'était une grâce. Donc il y avait des grâces régulièrement. Les pirates rentraient dans le rang. Il y avait un ou deux qui disaient oh, il y en a marre de cette espèce de carcan là, donc on redevient pirate. Ou bien des corsaires qui se trouvaient au chômage. On ne leur proposait absolument rien, sauf en Hollande. On leur proposait des postes dans la marine de pêche. Mais donc sinon, ils n'avaient rien à faire. Et donc tout ce qu'ils avaient à faire, c'était naviguer, piller. Et on ne leur proposait absolument rien. Et donc ils devenaient pirates. Et voilà, ça tournait comme ça. C'était en fait. C'était très flou, la frontière était très floue. Elle était très claire d'un point de vue de la loi, et par contre, du point de vue des personnes, c'était très flou.
Quand on lit un peu la biographie, il y a aussi souvent des pirates qui ont été pirates pendant quelques années. Ils ont pris une grâce d'une ou autre des puissances pour des raisons. Ils sont installés deux ans en disant que ça y est, ils étaient rentrés dans le rang, ils allaient faire leur vie à terre, puis au bout d'un an et demi. L'océan leur manquait, ils avaient épuisé leur fond, la femme commençait à les saouler, donc ils remettaient les voiles et ils repartaient.
C'est exactement ça. Donc l'exemple type, c'était la grâce de 1718 qui a tué la piraterie caraïbe. La grâce, donc, quand Wood Rogers est venu contrôler en fait l'île de Providence. Et donc par exemple Barbe Noire, donc lui il a accepté une grâce et il s'est installé. Et il s'est installé en Caroline du Nord. Et d'ailleurs, après, bon, mis à part des choses dont les gens n'étaient pas au courant, qu'il avait fait des actes de piraterie en haute mer, mais il a pris des navires qu'en rivière, ce qui ne faisait pas lui un pirate. On n'avait pas le droit, en fait, on l'a laissé sévir si longtemps parce qu'on n'avait pas le droit de c'était un voleur, voilà, c'était pas un pirate. On n'avait pas le droit de déployer de l'artillerie lourde.
Pirate, c'est prise en haute mer.
C'est ça.
En rivière, on est 500 lieues sur l'eau, donc.
C'est ça, c'est exactement ça. Et donc, c'était un des facteurs de la durabilité. Il est resté là pendant 6 mois. Donc,
c'est
lourd
pour un pirate.
Et on a des pirates qui sont devenus corsaires, puis après intégrés dans des marines tout à fait officielles, ça s'est vu.
Oui, par exemple, Richard Taylor, qui n'était pourtant pas un tendre, donc qui était second de England, donc, et qui lui a fait toutes les Indes orientales. Donc il est allé en Inde en fait, jusqu'en Inde. Et puis ensuite, donc au bout d'un moment, il en avait marre, il a accepté une grâce en Nouvelle-Espagne, et donc il est devenu un membre, je ne sais plus si c'est corsaire ou marine de guerre, enfin donc. Oui, mais par exemple aussi un autre exemple, Hornigold, qui était un très grand pirate, donc et lui il a accepté contrairement à. Il est rentré immédiatement quand il a su qu'il y avait une grâce à Providence. Et ensuite, il s'est mis sous les ordres de Wood Rogers. Et donc, et il a notamment arrêté le pirate Hauger, qu'il a ramené pour le faire pendre donc, à Nassau, où Hauger a dit il fut un temps où les gens qui habitaient cette île n'auraient pas souffert de voir mourir comme un chien. Ça avait beaucoup changé l'ambiance. Il n'était pas le seul, il y avait Cockram qui était donc justement qui travaillait beaucoup avec Hornigold. Il y avait aussi Burgess. Il y en a plein, en fait, c'est donc le pirate à vitam aeternam, donc sur lequel il faut taper, parce que c'est un grand méchant, c'est le mal, voilà, comme diraient les Américains, donc c'est le mal. En fait, on habite dans le. On est complètement à côté de la plaque quand on dit ça.
Après, il y a vraiment deux pirates qui avaient particulièrement abusé et qui, même sur les draps, sont emmerdés de mal. Je pense notamment à l'eau qui avait eu beaucoup de mal.
Mais l'eau était quelqu'un qui avait probablement un grand problème psychologique.
Psychiatrique, oui. Mais parce que je sais, l'eau notamment a été exclue. Certaines grâces étaient offertes à tous les pirates, sauf
Mais de l'eau. Mais en général, d'ailleurs, c'était les grâces étaient tous les pirates, sauf un tel. Hein. Donc je crois qu'il y a une grâce, sauf Kid, d'ailleurs.
Ouais, c'est possible.
Parce que comme l'eau avait tué des ecclésiastiques,
il a pendu, rependu.
Il avait pendu des prêtres, donc il s'était fait excommunier. Du coup, les Anglais ne voulaient pas gracier un excommunié. Enfin, il n'y avait pas de grâce possible pour
lui. Ah, l'eau, de toute façon, oui, non. C'est, on pouvait pas vraiment. Mais ça, il n'y avait pas de place dans la société, donc.
Non. Heureusement, d'ailleurs.
Si, il aurait pu être capitaine de commerce.
Je pense qu'on a un peu fait le tour de toutes les questions. Je vais vous laisser continuer sur la manifestation. Les auteurs sont disponibles, Renaud sera à la zone de Blackbook, les autres auteurs sont disponibles à la partie fiction. Mais je crois que tu as une partie dans
le partie là.
D'accord. De pavillon noir, j'imagine, peut-être.
Oui. Je pensais jouer au Schtroumpf, mais on va dire.